Et bonjour à tous. On pourrait croire qu'après l'affaire DSK, après l'affaire Baupin et la déflagration qu'a été le mouvement MeToo, les partis politiques se seraient dotés d'outils efficaces pour lutter contre le harcèlement sexuel. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
Bonjour Léa Gage.
Bonjour.
Vous avez donc enquêté, vous, pendant plusieurs semaines et vous avez découvert qu'on est encore loin du compte, dans les partis politiques, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, où une cellule d'écoute peine à avoir des résultats.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Je me suis engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes.
Voilà, vous avez reconnu Emmanuel Macron, c'était en novembre 2017, le chef de l'État s'engage à faire de la cause des femmes une cause prioritaire. Seulement, quels dispositifs ont été mis en place depuis par les partis politiques pour lutter contre les violences sexuelles ? C'est donc ce que vous avez voulu savoir, Laetitia Chérel. Et pour commencer avec vous, on va d'abord regarder ce qui se passe dans le parti présidentiel.
Alors, La République En Marche a créé récemment une cellule d'aide aux victimes de violences sexuelles. Mais pour ça, il a fallu attendre que deux affaires éclatent dans la presse. La première sort le 3 septembre 2019, jour du lancement du Grenelle du gouvernement contre les violences faites aux femmes. Le journal La Dépêche révèle qu'un député En Marche de Toulouse, Pierre Cabaret, est visé par une plainte pour harcèlement sexuel et moral et pour agression sexuelle.
Oui, cette annonce est d'autant plus embarrassante, Laetitia, que Pierre Cabaret, eh bien, c'est un député qui incarne cette lutte pour les droits des femmes.
Oui, c'est même le vice-président de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
D'après plusieurs députés que nous avons interrogés, c'est un peu la panique à la direction de La République En Marche. Le mot d'ordre est « ne rien faire tant que la justice n'est pas passée ». Pierre Cabaret n'est pas exclu du parti, mais on lui demande de démissionner de la vice-présidence des droits des femmes.
Oui, démissionne quand même de cette vice-présidence, donc on prend une décision.
Oui, mais on peut se demander pourquoi les choses n'ont pas bougé avant. Parce que, dès le mois de mai 2019, 5 collaborateurs de Pierre Cabaret envoient une lettre à Richard Ferrand, le président En Marche de l'Assemblée nationale, à Gilles Legendre, le président du groupe, et aussi à Stanislas Guérini, le délégué général du parti. Nous avons fait lire un extrait de ce courrier.
Les collaborateurs actuellement en poste avec M. Cabaret subissent un quotidien toxique et une ambiance de travail délétère. Madame a saisi l'inspection du travail et informé le procureur de la République de Toulouse pour des faits très graves de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Elle a été immédiatement mise à pied. C'est dans ce contexte d'humiliation permanente que deux autres collaborateurs ont été remerciés sans raison valable.
Et cette lettre est donc restée sans réponse.
Et Pierre Cabaret, lui, il en dit quoi ?
Alors, il a refusé de répondre à nos questions, mais il a toujours nié formellement ces accusations et il a porté plainte alors pour dénonciation calomnieuse.
Oui, à suivre donc, et vous parliez d'une deuxième affaire.
Oui, il s'agit du député de l'Ain, Stéphane Trompy, condamné en mai dernier par le Conseil des Prud'hommes pour harcèlement sexuel et pour licenciement abusif d'une de ses anciennes collaboratrices. Le parti lui demande alors de se mettre en retrait. Une sanction qu'une députée En Marche, Laurence von Sonnebrock, estime trop faible.
Un jugement a été rendu, le condamnant. Et effectivement, j'ai un peu regretté à l'époque d'être finalement la seule députée LREM à m'offusquer, entre guillemets, des faits et puis m'étonner que le groupe ne soit pas plus incisif sur ses décisions. Le fait de le conserver dans nos rangs, ça veut quand même dire que, enfin, pas qu'on cautionne, mais qu'on n'est pas complètement en désaccord avec sa façon d'agir.
Ouais, donc elle regrette une décision qu'elle juge trop légère. Maintenant, ces affaires, elles ont quand même fait bouger les choses.
Oui, quelques mois après, en janvier 2020, Marlène Schiappa annonce la création de la fameuse cellule d'écoute de La République En Marche.
Bon, elle fonctionne comment alors, cette cellule ?
En fait, il y a des référents locaux en région qui font remonter des cas au parti. À ce jour, il y aurait eu 3 cas de harcèlement sexuel en 9 mois. Je dis « aurait » parce qu'on n'a pas eu plus de précisions.
Pas plus de précisions, mais a priori, donc, ça fonctionne.
Oui, mais il semble que cette cellule soit encore très confidentielle. On est allé voir une dizaine de députés En Marche à l'Assemblée et aussi Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Nous leur avons demandé s'ils connaissaient ce dispositif et voilà un petit florilège de ce qu'ils nous ont répondu.
Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment, je ne vais rien pouvoir vous en dire parce que je n'en ai pas du tout entendu parler.
Je ne suis pas du tout au courant, non.
J'ai pas suivi
particulièrement ce dossier-là, parce que je suis sur les sels nitrités, l'alimentation et d'autres choses. Voilà.
Donc vous n'en avez pas entendu parler ?
J'en ai entendu parler, mais comme on en parle là, sans plus.
Là, j'avoue que cette cellule-là, je n'ai pas suivi sa mise en place. Donc non, là, c'est plutôt quelque chose d'assez flou pour moi.
À ce jour, non. Mais encore une fois, peut-être qu'il y a des trous dans la raquette dans l'information.
Il y a des trous dans la raquette. Et Marlène Schiappa, elle en dit quoi de ces trous dans la raquette ?
Alors, nous l'avons sollicitée. Elle nous a donné plusieurs rendez-vous, mais elle les a tous annulés.
Dommage, donc on ne l'entendra pas sur ce sujet. Maintenant, La République En Marche, Laetitia, on ne mise pas que sur cette cellule.
Non, c'est vrai, La République En Marche dit vouloir former ses membres à la lutte contre les violences sexuelles. Selon nos informations, l'ancien président du groupe à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, avait même promis, en juin dernier, qu'une formation serait organisée pendant les journées parlementaires de son groupe. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, selon l'intervenante que nous avons retrouvée, Sylvia Arcos-Schmidt.
Moi, j'avais compris au début aussi que c'était plus ouvertement sur la prévention du harcèlement moral et sexuel. Mais en fait, il y a eu une volonté d'y aller plus doucement pour ne pas provoquer du rejet. Mais en fait, il y a une telle peur par rapport à ce mot, et pas seulement là au groupe La République En Marche, mais vraiment, je le vois partout. Le mot harcèlement fait peur.
Ouais, le mot fait peur. Et donc, il n'y a pas eu de formation sur le harcèlement ?
Alors, il devait y en avoir une autre, mais elle n'a pas abouti non plus. C'est ce que nous a raconté Claire Pitola, qui est députée des Bouches-du-Rhône et très investie sur ces questions.
Des organismes de formation nous ont proposé des modules. Ensuite, on a regroupé un certain nombre de députés pour tester ces modules. Et en fait, il nous suffisait de finaliser la commande, on va dire, et ensuite de décider si on essayait d'inciter à ce que chaque député LAREM puisse faire cette formation. Et voilà, on va dire que l'été est passé là-dessus et qu'à la rentrée, le groupe n'a pas poursuivi. Donc c'est un peu en latence. Ce serait bien que ce soit repris.
Et alors, ça va être repris ?
Eh bien là-dessus, personne n'a voulu nous répondre. Ni Gilles Legendre, ni son successeur à la présidence du groupe, Christophe Castaner, ni même le patron de LREM, Stanislas Guérini.
Ouais, décidément, on n'est pas très loquace quand il s'agit de parler de harcèlement sexuel. Hein. Bon, alors ça, c'est pour ce qui se passe à La République En Marche. Et chez Les Républicains, c'est la même chose ?
Alors non, parce que Les Républicains, c'est l'un des rares partis qui, à notre connaissance, n'a pas d'outils dédiés à la lutte contre les violences sexuelles. Ils n'ont ni cellule d'écoute, ni programme de formation. Et Aurélien Pradier, le secrétaire général du groupe, l'assume tout à fait.
Je ne crois pas à des cellules identifiées. Ce qui est important, c'est que dès lors que quelque chose doit se dire, ça puisse être dit, et c'est aux responsables politiques de l'entendre aussi au sein d'un parti. Quant aux élus, il y a une sensibilisation par l'engagement politique que l'on a pu avoir depuis plusieurs mois. Donc c'est une sensibilisation des militants, des responsables politiques, des collègues aussi qui ont été sensibilisés.
Et cette sensibilisation, Laetitia, elle est efficace ?
Alors, difficile à dire, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui sortent. Donc, soit les gens ne parlent pas, soit il n'y a pas de harcèlement sexuel chez Les Républicains. On a posé la question à Mathilde Julier-Viau, la cofondatrice du collectif Chères collaboratrices à l'Assemblée nationale. Elle recueille régulièrement des témoignages et voilà ce qu'elle nous a répondu.
Je pense que ça s'explique par deux phénomènes, pas par l'absence du tout de sexisme dans les rangs des Républicains, mais par les femmes ne voient pas nécessairement comme du sexisme des choses qui en sont. Deuxièmement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un esprit de camaraderie qui est beaucoup moins fort que dans les partis plus à gauche et qui finalement génère une distance au travail qui est plus importante. Donc probablement moins de tapes sur l'épaule qui peut rapidement finir en tapes sur les fesses.
Ah oui, donc il y aurait à LR une culture différente, moins de proximité entre les collaborateurs ?
Alors ça, c'est une hypothèse. Maintenant, les Républicains ont tout de même été secoués par les révélations du journal Libération cet été. On a appris qu'Oran Réagnan, le président des Jeunes Républicains, était accusé d'agression sexuelle par deux jeunes femmes, dont l'une a porté plainte.
Et comment on a géré ça ?
Eh bien, après que l'affaire soit sortie, le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, lui a demandé de se mettre en retrait en attendant que la justice passe. Mais ça n'a pas été si simple.
Il se passe plusieurs semaines durant lesquelles il a du mal à prendre cette décision-là. J'en discute le jour même avec Christian Jacob, qui est sur la même position que moi, et on lui demande de se mettre en retrait en indiquant que l'échéance, c'est celle du rassemblement des jeunes au Port Marly en septembre, et qu'à cette échéance-là, il ne peut pas être présent si, d'ici là, il n'a pas été innocenté. Et donc, on met plusieurs journées à convenir de cet accord-là, qu'il finit par accepter, puisque au Port Marly, il n'est pas présent, et tant que la décision de justice ne l'aura pas innocenté, ou condamné, on souhaite qu'il reste en retrait.
Et donc une décision a été prise.
Oui, sauf que en creusant, on s'aperçoit qu'il y a eu des alertes bien avant. Dès le mois de février dernier, le journal Le Progrès révélait que le député était visé par une plainte. Et selon ce que nous ont confié plusieurs militants, la seconde agression présumée était en fait un secret de polichinelle dans le parti. Il semble même que la rumeur soit remontée jusqu'à la direction du parti, selon un ancien membre de la garde rapprochée de Laurent Wauquiez. Cette source a tenu à conserver l'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos.
La rumeur est arrivée avant le Conseil national de fin janvier 2018, le premier de Laurent Wauquiez comme président des Républicains. C'est la première fois que j'en ai entendu parler vraiment, de façon solide. Avant, c'était juste un bruit de couloir entre jeunes. Pour moi, Laurent Wauquiez n'était pas au courant avant. Je pense que le plus vraisemblable, c'est qu'il a délégué ça à son directeur de cabinet, Arnaud Beuron, qui connaissait bien Aurane Réhagnan.
Et Arnaud Beuron, lui, il en dit quoi de tout ça ?
Eh bien, il dément formellement avoir été mis au courant, tout comme l'ancienne secrétaire générale des Républicains.
Et l'ex-président des Jeunes Républicains, qui est mis en cause, lui, Aurane Réhagnan, il dit quoi ?
Il nie les accusations, comme le précise son avocat, maître Robin Binsard.
On est tout à fait serein parce qu'il n'y a rien dans ce dossier. Tout démontre que la plaignante a menti et il n'y a aucune preuve, aucune charge, en réalité, aucune accusation tangible contre M. Réhagnan. Ce dossier aboutira par un non-lieu ou une relaxe. Nous sommes tout à fait sereins. Il n'y a rien dans le dossier. M. Réhagnan conteste vivement les faits.
Il n'y a rien dans le dossier. C'est vraiment le cas ?
Eh bien, ça, c'est sa lecture. Mais le parquet de Bourg-en-Bresse semble faire une autre analyse, puisqu'après avoir entendu toutes les parties, il a considéré qu'il y avait matière à ouvrir une information judiciaire.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors voyons maintenant comment les choses se passent dans les partis historiques de la gauche. Et là, je me tourne maintenant vers vous, Léa Gage. Comment est-ce que le PS, par exemple, gère ses affaires de harcèlement ?
Alors, faut d'abord se rappeler que le parti a été vraiment secoué en 2017 par une affaire qui visait les jeunesses socialistes. Il réagit très vite sur le coup, puisqu'il vote le jour même la mise en place d'une cellule. Sauf qu'entre le jour du vote et la création de la cellule, il se passe 3 ans.
Mais ça veut dire que pendant 3 ans, il ne s'est rien passé ?
Alors si, mais on a dû créer des commissions spécifiques pour mener des enquêtes sur certaines affaires.
Et lesquelles, par exemple ?
Par exemple, à Saint-Nazaire, en 2017, une conseillère municipale dit avoir été violée par un adjoint au maire. Elle porte plainte et une information judiciaire est ouverte. Mais dans le même temps, le Parti Socialiste mène sa propre enquête en parallèle. Le secrétaire national Olivier Faure dépêche à Saint-Nazaire une commission dont fait alors partie la sénatrice Laurence Rossignol.
On a entendu toute une série de protagonistes, et en particulier la jeune femme, celle à qui elle s'était confiée, les circonstances dans lesquelles elle s'était confiée. On a aussi entendu des gens de l'entourage, mais ni le maire, ni le mis en cause n'avaient accepté de parler à la commission qui considérait être incompétente, illégale, parce que non judiciaire.
Mais dans ces conditions, on fait comment alors ?
On juge en fonction des éléments dont on dispose. Donc en l'occurrence, la commission a quand même préconisé des sanctions. Le maire de Saint-Nazaire s'est vu retirer son investiture pour les municipales de 2020 parce qu'il avait ignoré les alertes de plusieurs membres de son conseil municipal.
Mais des commissions d'enquête de ce type, là, y en a eu d'autres ?
On sait qu'il y en a eu au moins une autre envoyée à Strasbourg en début d'année. Et le Parti Socialiste a, là encore, retiré son investiture à sa tête de liste après avoir pris connaissance de mails laissant entendre qu'il aurait eu des relations tarifées avec des étudiantes. Enfin bref, le Parti Socialiste n'attend pas que la justice se prononce pour agir et il l'assume, comme nous l'explique Laurence Rossignol.
Depuis l'affaire MeToo, j'entends tout le monde dire c'est la justice qui dit qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Et dès lors qu'une décision judiciaire a été prise, il faut être intransigeant à l'égard des auteurs condamnés. Mais on est dans un domaine où justement la justice intervient rarement. Et donc, pour les partis politiques, ou du moins pour celui que je connais, le Parti Socialiste, il faut agir en marge de la justice.
Oui, donc suspendre, même si celle-ci n'a pas été saisie. Et quand la justice est passée, Léa ?
Eh bien là, on exclut, et tout de suite. C'est ce qui est arrivé à un ancien conseiller municipal de Joué-les-Tours, qui a été condamné au tribunal correctionnel pour violence conjugale, et le parti a donc demandé son exclusion.
Bien, donc ça c'est pour le PS. Alors on va aller encore un peu plus à gauche, Léa Guedj, si vous voulez bien, à la France Insoumise. Est-ce qu'on a pris, là aussi, des mesures particulières ?
Oui, là aussi, on a créé une cellule il y a 2 ans. Elle est composée de femmes qui traitent les dossiers en binôme. Et depuis, une 40aine de cas ont été signalés, dont 17 sont en cours de traitement. Et ils ne mettent pas en cause que des militants, nous dit une membre de cette cellule, Manon Colléou.
Parmi ces 17 signalements, 2 ont concerné des cadres du parti. On a eu le cas avec un candidat aux européennes, et il y en a un autre qui est toujours en cours.
Un autre cas dont on a choisi de ne pas parler pour l'instant, faute d'éléments suffisants pour le désigner formellement.
Bon, et sinon, des décisions ont déjà été prises ?
Alors ça, c'est difficile à dire. Des membres de la cellule nous ont parlé de 10 exclusions, mais le dernier bilan officiel sur le site de la France Insoumise n'en fait plus mention.
Ouais, donc difficile à vérifier. Maintenant, à la France Insoumise, on mise aussi sur les formations.
Oui, mais il faut dire qu'entre l'intention et la réalité, il y a un fossé.
C'est-à-dire ?
En 2019, la France Insoumise a effectivement commandé une formation à l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Et voilà ce qui s'est passé, nous raconte Marilyn Baldec, la présidente de l'association.
La première demi-journée qui devait avoir lieu en février 2019 a été annulée 3 jours avant. Reporté au mois de mars 2019 et reporté de nouveau au mois de juin 2019 et de nouveau annulé. Ces 3 fois, les annulations ont été justifiées par le faible nombre d'inscrits à la formation. Il y a un moment où il faut aussi que ce soit une priorité politique. Donc manifestement, ça n'en était pas une. Et nous avons décidé, nous, de mettre un terme à ce programme, puisque en termes d'organisation, c'est pas possible, en fait, ces annulations de dernier moment pour notre association.
Ouais, donc on a annulé des formations faute de participants. Bon, mais en même temps, Léa, comment faire si personne ne veut y aller ?
Alors, il y a des discussions pour savoir s'il faut rendre ces formations obligatoires. Daniel Simonet, qui a participé à la création de la cellule, pense qu'il faut convaincre plutôt que d'imposer ces formations. Mais elle reconnaît qu'il y a encore des grandes résistances.
Y compris chez les femmes, ça va pas de soi qu'il faut se former dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Si vous demandez à toutes les personnes du mouvement « Est-ce que la France insoumise est féministe ?», tout le monde va vous dire « Oui ». Est-ce que moi, en tant que femme, j'accepte de consacrer une soirée à une réunion ? Certaines vont être au contraire ravies, d'autres peuvent se dire « bon, c'est pas nécessaire, à quoi cela sert ?» Or, c'est nécessaire.
Oui, c'est nécessaire et donc il y a encore du boulot. Alors ça, c'est pour les insoumis, mais vous avez aussi regardé, Léa, du côté du Parti communiste.
Oui, il faut d'abord se souvenir qu'il y a eu un véritable séisme dans le parti. C'était en 2018. Des militants des jeunesses communistes révèlent dans le journal Le Monde qu'ils ont été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles. Donc par la suite, une cellule est créée et depuis, des décisions ont été prises. Les choses ont avancé, affirme Hélène Bidard, la responsable de cette cellule.
Les 10 années avant la mise en place de cette cellule, le PCF avait... décider à peu près 3 exclusions. Du moment où on a mis en place cette cellule, nous avons prononcé une 15aine, soit de suspension des droits d'adhérents dans l'attente du procès, soit d'exclusion définitive. J'ai encore été saisie hier d'un nouveau cas. C'est énorme, ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin.
Oui, il y avait un vrai besoin et donc ce besoin, on y a répondu.
Bah si on regarde les chiffres, oui, mais le malaise est encore palpable et on le voit bien en janvier 2019 quand le congrès des jeunesses communistes est interrompu par 100 de participants. Ils envahissent la tribune pour dénoncer des violences sexuelles qui persistent dans le mouvement. Parmi eux, il y avait Madeleine dont nous avons fait lire les propos.
Je suis montée à la tribune, suivie par 100 de personnes pour dénoncer les agressions et les gens qui protégeaient les agresseurs. On s'est retrouvés face à une espèce de tollé, des gens nous traitaient de menteuses. Des insultes fusées, on nous a fait des croche-pieds, des gens faisaient barrage dans les couloirs pour qu'on ne puisse pas atteindre la tribune. On m'a demandé de me taire au micro, ils ont demandé d'évacuer la salle. C'était un gros bazar.
Ouais, le climat est alors effectivement très tendu.
Oui, ce témoignage n'est pas isolé. Nous avons rencontré une autre militante qui était sur cette tribune. Elle s'appelle Mathilde Becher. Elle dit avoir subi un viol d'un de ses camarades en 2017 et il lui a fallu signaler son cas plusieurs fois pour être entendue.
Bah, j'ai quand même dû témoigner au final 4 ou 5 fois à des personnes différentes. Au mois de mars 2018, comme j'ai dit, on me contacte alors que je suis à l'hôpital psychiatrique pour témoigner de quelque chose que j'avais déjà raconté deux fois. C'est une violence qui est inouïe. Et puis après, à la suite, il y a eu ce dispositif Stop Violence qui a été mis en place et qui était censé faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et on voit bien que presque 3 ans après la première fois où j'ai témoigné, eh bien, il ne s'est rien passé. À part moi qui ai été torturée un peu dans le process.
Torturée dans le process.
Bah oui, trop d'étapes, trop d'interlocuteurs, trop peu d'informations, et c'est ça qu'elle dénonce.
Et ça s'est terminé comment alors ?
Eh bien, celui qu'elle désigne comme son agresseur a été suspendu. Il n'est donc plus officiellement membre du Parti communiste. Et pourtant, en septembre 2019, à la Fête de l'Humanité, Mathilde le croise en train de tenir le bar d'un stand d'une fédération. Hélène Bidard, la responsable de la cellule d'écoute, reconnaît que c'est un problème, mais elle affirme qu'elle n'y peut rien.
Le PCF a demandé qu'il n'y soit pas, mais il se trouve que l'Humanité est un journal indépendant et la Fête de l'Humanité est encore indépendante par rapport et au journal et au PCF. J'ai un autre cas où on a demandé une exclusion ferme de quelqu'un, donc on avait plusieurs témoignages concordants pour dire que c'était un agresseur violeur. Pour le coup, on l'exclut définitivement. Bah, figurez-vous que quelques mois après, il était délégué au congrès de son syndicat.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors continuons de voir comment les partis politiques gèrent l'après-MeToo. Avec vous, Laetitia Chérel, on va maintenant se pencher sur Europe Écologie Les Verts. Alors, on a tous en tête l'affaire Baupin, révélée par France Inter et Mediapart en 2016, et le séisme que ça a provoqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Alors, outre le choc pour les militants, cette affaire semble avoir déclenché une prise de conscience dans le parti. Quelques mois après qu'elle éclate, une des femmes qui avait accusé Denis Baupin, qui était alors, je le rappelle, vice-président de l'Assemblée nationale, eh bien, une de ces femmes, Sandrine Rousseau, numéro 2 du parti, prend le taureau par les cornes.
À la suite de ça, je décide de prendre les choses en main pour mettre en place, avec la présidente de la commission féminisme, un véritable dispositif de lutte contre les violences sexuelles à l'intérieur du parti. Donc on fait un appel à candidature, il y a des personnes qui sont formées, c'est quoi du harcèlement, c'est quoi une agression, et quelle est la procédure que l'on met en place en interne. Et donc une fois que ce dispositif a été mis en place, moi je suis partie.
Elle est partie, et ensuite ?
Eh bien ensuite, le dispositif vivote. En mars 2018, le parti valide la création d'une autre cellule de signalement, mais un an plus tard, il ne s'est toujours rien passé.
Et comment on explique ça ?
Alors nous avons posé la question à David Cormand, qui était le secrétaire général du parti de 2016 à 2019. Il avait d'ailleurs été interpellé à ce sujet au Conseil fédéral des Verts et il avait reconnu que le parti avait merdé, je cite. Il s'en explique aujourd'hui.
Il ne faut pas voir Europe Écologie Les Verts comme une administration d'État avec de nombreux services. Quand j'étais secrétaire national, on fonctionnait avec, à l'époque, 3,2 équivalents temps plein, d'où le terme « on a merdé » parce que effectivement le suivi de cette motion qui avait été votée pour faire l'appel à la candidature avait tout simplement pas été fait. C'est pas de la négligence, c'est que on a une to-do list qui est effrayante tous les jours et il y a des trucs qui sont pas faits.
Des trucs qui ne sont pas faits.
Oui, en l'occurrence, cet appel à candidature qui devait servir à recruter l'équipe de la cellule, eh bien cet appel, il a été passé avec 2 ans de retard et c'est pour ça que la cellule n'a pas pu fonctionner avant février dernier.
Et son bilan aujourd'hui, c'est quoi ?
Elle a reçu 8 signalements, dont 2 cas de harcèlement sexuel et elle va s'auto-saisir de 2 cas de viol. Mais l'équipe qui devait être formée ne l'est toujours pas. Et pour cette militante qui tient à rester anonyme et dont nous avons fait lire les propos, cela s'explique par un problème de mentalité.
Notre parti, il a beau être paritaire, il a beau être pour l'égalité femmes-hommes, il y a encore plein de vieux mecs qui bloquent sur ces questions. On partait du principe que notre parti devait, comme n'importe quelle entreprise, garantir un espace sûr pour ses salariés, qu'elles puissent dénoncer en sécurité des violences sexuelles dont elles avaient été victimes. Mais c'est une culture qui a eu du mal à passer. Et on n'est pas encore au bout.
On n'est pas encore au bout, mais pourquoi ça traîne ?
Disons qu'il y a un conflit de génération entre, d'un côté, les jeunes féministes, femmes et hommes compris d'ailleurs, et de l'autre, la vieille garde issue de 68, qui a été aux commandes du parti jusqu'à il y a peu, comme l'explique Yves Contasso, conseiller écologiste de Paris.
Le parti était issu quand même de la génération 68. La réputation, c'était les universités d'été des écolos, c'est quand même le grand lupanar. Et donc, sous prétexte d'une espèce de liberté sexuelle, il y avait aussi, on n'a pas le droit de porter le moindre jugement sur ce que font les uns et les autres.
Ah oui, donc il y aurait un frein culturel à faire avancer les choses.
Oui, mais la jeune génération pousse dans l'autre sens. Et en l'espace de quelques semaines, cet été, Europe Écologie Les Verts a écarté deux personnes. La première, c'est le directeur adjoint de cabinet d'une élue à la mairie de Paris, parce qu'il était accusé de viol. Et la deuxième, c'est Stéphane Pocrin, qui travaillait de longue date avec le parti, et il était accusé de comportement inadapté.
Oui, on va interrompre notre récit sur ces propos, mais surtout restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons qu'à l'Assemblée nationale aussi, entre les engagements et la réalité, il y a parfois un fossé.
I don't even care. And the crowd is heavy. I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is you. And nothing else matters. You.
Ce sont les héritiers de Dido, même apesanteur, même douceur. C'était Baby It's You, nouveau single qui signe le retour du groupe britannique London Grammar.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors on a vu que dans les partis, on a plus ou moins de mal à agir, à lutter contre le harcèlement sexuel. Eh bien maintenant, on va se rendre compte qu'à l'Assemblée nationale, c'est un peu la même chose, Léa Gage.
Ah oui, à l'Assemblée, il y a une cellule qui a été créée en février dernier. Mais ça s'est fait sous la pression du collectif Chères Collaboratrices et de l'intersyndicale des collaborateurs.
Et elle fonctionne comment alors, cette cellule ?
Elle traite les signalements et pour ça, elle a recours à deux prestataires extérieurs qui fournissent une assistance psychologique et juridique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et avec quel résultat ?
Le résultat est assez surprenant puisqu'en 8 mois, il n'y a eu aucun cas de harcèlement sexuel signalé à la cellule. Il n'y a eu que des cas de harcèlement moral. Et Michel Ledoux, le responsable du pôle juridique de la cellule, s'en étonne.
C'est une énigme. Quelle est l'explication ? La cellule n'existant là encore que depuis le mois de février, peut-être qu'il est pour l'instant plus facile de dénoncer de la maltraitance managériale sous l'angle harcèlement moral que sous l'angle harcèlement sexuel. Peut-être, bon. Il y a également, à l'Assemblée, donc cette fameuse association, la chère collaboratrice, qui est peut-être le réceptacle, parce que ce sont des femmes, de ce genre de signalement.
Mais donc, ça veut dire que le collectif Chères Collaboratrices serait plus efficace que la cellule officielle ?
Apparemment, oui. Et on le comprend avec les explications de Mathilde Juliet-Viau, la cofondatrice de ce collectif.
Il y a probablement un déficit déjà de connaissance de l'existence de la cellule, premièrement. Deuxièmement, il y a un déficit de confiance, clairement, puisqu'on ne connaît pas très bien le lien d'indépendance de la cellule vis-à-vis de la présidence. Et troisièmement, une certaine incertitude vis-à-vis de ce que peut faire cette cellule. C'est complètement flou. La compétence de cette cellule est juste de pouvoir renvoyer à la déontologue les situations qui sont jugées trop graves. Et la déontologue n'a pas de pouvoir pour faire avancer quoi que ce soit.
Ouais, donc le système semble patiner. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de cas de harcèlement sexuel à l'Assemblée.
Non, apparemment il y en a. Et c'est ce qu'a montré une enquête de Chères Collaboratrices en mars 2019. Le résultat de cette enquête, c'est qu'une femme sur deux disait avoir entendu des propos déplacés, une sur trois dit avoir été victime d'injures sexistes et une sur cinq d'agressions sexuelles. Et le collectif continue à recevoir des signalements comme celui-ci.
Un député dans l'ascenseur qui explique qu'il va pouvoir s'envoyer en l'air avec une collaboratrice avant qu'elle ne redescende. Ou bien sinon des regards insistants assez réguliers de députés qui font que les personnes se sentent suffisamment mal à l'aise pour venir nous parler.
Et donc lorsque ça se produit, se passe quoi ?
Eh bien il existe deux options. Soit signaler les faits au parquet, soit saisir la déontologue de l'Assemblée. Mais dans ce cas, c'est suivi de peu d'effets, nous dit Michel Ledoux, le responsable du pôle juridique de la cellule.
Lorsqu'on prévient la déontologue de quelque chose qui serait du harcèlement, logiquement, derrière, il devrait y avoir quand même quelques investigations, parce que l'info qu'on leur communique, nous, c'est non contradictoire. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui permette d'entendre la personne accusée de harcèlement, entendre ses explications, et si ces explications sont vaseuses, éventuellement, prévenir le procureur de la République.
Et la déontologue, elle en dit quoi ?
Elle estime que ce n'est pas son rôle, alors je précise qu'elle a refusé de nous répondre, tout comme le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Seule la questeur, Lauriane Rossi, d'En Marche, a accepté de nous recevoir, mais pour elle, l'Assemblée a très peu de leviers.
Premièrement, l'Assemblée nationale n'a pas d'autorité hiérarchique sur le député, notamment du fait que les collaborateurs de députés sont les employés du député eux-mêmes. Ils ne sont pas les salariés de l'Assemblée nationale. Donc c'est un contrat de travail qui unit le député à son collaborateur. Et l'Assemblée nationale ne peut pas juridiquement s'immiscer dans ce contrat de travail. Donc ça, c'est la première limite. Et la deuxième, j'y reviens, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire comment pourrions-nous, bureau de l'Assemblée nationale et questeur, prendre des sanctions vis-à-vis d'un député alors même que la justice n'a pas encore tranché.
Ouais, donc au sommet de l'Assemblée, on dit avoir peu de pouvoir, donc il y a encore du boulot.
Oui, d'autant que ce qui frappe Mathilde Juliet-Viau de Chères Collaboratrices, c'est que le renouvellement en 2017 de l'Assemblée nationale n'aurait pas fait changer les comportements.
Là, on a l'impression de voir de jeunes loups débarquer, complètement persuadés d'eux-mêmes et assez forts de leur arrogance. Et avec ça, toute la panoplie des comportements sexistes, ça va de main aux fesses à des propos vraiment déplacés. Il y a aussi ce truc-là de la camaraderie, c'est-à-dire de la jeunesse qui a l'impression de sortir en fait d'école de commerce et qui se comporte avec ses collaboratrices comme si c'était en fait la fête tous les jours et bam que je te claque sur les fesses et voilà. Et donc il y a cette forme de porosité-là entre les genres qui permet à ces messieurs d'avoir ce type de comportement de façon beaucoup plus décomplexée qu'avant.
Et ce seront les mots de la fin. Merci Léa Guedge, merci Laetitia Chérel. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser des commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Libéré. À la technique, il y avait Henri Bérec. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.